sur les camps noirs de ma nuit blanche, où je me fais du cinéma, cinéma.
Le cinéma, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre. Qu'est-ce que c'est, non?
Attention, moteur,
moteur. Formule 1, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième.
Hey, bon pour moi. On la double.
Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kay avec moi pour l'animer. Il est déjà en selle avec le regard d'un conquérant du Grand Ouest. Prêt à commander un whisky tiède dans un saloon mal famé, c'est le Nathan. Comment ça va mon Nathan ?
Oh là camarade !
Très western ça.
Ça va, foie jaune ?
Écoute, je vais plutôt bien, merci.
Très bien.
Ah, ça me fait plaisir de te retrouver là. Et on se retrouve assez rapidement quand même par rapport au dernier épisode.
Ouais, c'était pas difficile de faire mieux.
Mais je suis assez d'accord.
Mais c'est vrai, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'on a un petit fil rouge. On parlait un peu de western sur le dernier épisode et aujourd'hui, on va parler de quoi, Kev ?
Très belle transition puisque c'est donc l'épisode 32 et on va parler aujourd'hui du film Le Grand Silence de Sergio Corbucci. Je vais vraiment faire cet accent italien tout l'épisode. Qui est donc sorti en salle le 27 janvier 1969 et je préciserai même que le film est sorti en Italie en décembre 68, ce qui en fait un film anniversaire. Bon anniversaire, Le Grand Silence.
Et merde, merde, Kevin.
Ce film a 55 ans aujourd'hui.
Putain.
Et ouais.
Ce film a 55 ans et demi aujourd'hui.
Je suis très content d'en parler. Non, mais donc pour la seconde fois dans Ritech, on va parler d'un western, puisque si tu t'en rappelles bien, on avait parlé pour la première fois d'un western, c'était dans le tout premier épisode, puisqu'il s'agissait...
Il s'agissait de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d'Andrew Dominik.
Exactement, ouais. Western, donc, on va pas trop épiloguer sur le genre. Tant d'autres podcasts l'ont fait déjà avant nous et le feront certainement mieux que nous. Mais on peut tout de même rappeler que le western, il a une place un peu particulière dans l'histoire du cinéma. Tout comme il faut rappeler qu'il a connu différentes périodes. Et là, pour le coup, je vais citer André Bazin, donc théoricien et critique du cinéma qu'on ne présente plus, qui avait écrit dans l'ouvrage « Le western ou le cinéma américain par excellence », où il distinguait qu'il y avait le western classique, le western moderne, le western spaghetti et enfin le western contemporain qui prévaut encore aujourd'hui. Et pour lui, en fait, le western, on peut le considérer de la sorte à partir du moment où il y a trois caractéristiques fondamentales. Il faut des armes, un territoire américain et des chevaux.
Ah, pas mal. J'aime bien cette définition.
Voilà, pour le coup, c'était vraiment juste pour un peu présenter la
donc
chose.
Donc là, Corbucci, on va être donc dans le western spaghettos.
Ah bah alors là, spaghettos. Ouais. Et ça, justement, cette appellation de western spaghetti, je vais y revenir un peu plus tard. Mais voilà, tout ça pour dire que le western, en gros, c'est un petit peu la matrice originelle du cinéma. Et j'avais envie d'évoquer à mon tour, comme toi tu l'avais fait lors du premier épisode, ce genre avec donc Le Grand Silence. Film beaucoup plus confidentiel, loin des codes américains qu'on lui connaît. Puisqu'il nous vient en l'occurrence tout droit d'Italie, là où vraiment la trilogie du dollar de Sergio Leone est née, et où elle a marqué d'ailleurs l'histoire du cinéma.
Est-ce qu'on commencerait pas par s'écouter un petit extrait d'abord, mon Kev ?
Absolument, mon Nathan, on va s'écouter tout ça, on se met un peu dans l'ambiance un peu saloon malfamé, et on en reparle juste après.
Si tratta di Tigrero, ha ucciso mio marito. Ditemi quanto volete.
Senti, Muto, speri che io estragga per primo, vero? Perché non ti lascerò fare il furbo più di me.
È un nemico dei Bounty Killer.
È un illuso che crede di rimettere a posto il mondo con la pistola.
Ma è venuto per uccidere te.
Le Grand Silence, donc, Sergio Corbucci. Allez, je vous le pitch en deux. On est quelque part en Utah, aux États-Unis, en l'hiver rigoureux de 1898. Les conditions météo extrêmes poussent les hors-la-loi, les bûcherons et les paysans à piller les villages, ce qui a pour effet de donner champ libre aux chasseurs de primes qui peuvent exécuter les criminels pour quelques dollars, et ce, en toute impunité. C'est dans ce contexte qu'on voit l'arrivée d'un étranger surnommé Silencio, joué par Jean-Louis Trintignant, qui est engagé par une veuve pour stopper ce massacre en affrontant Tigrero, joué par Klaus Kinski, qui est le plus redoutable des chasseurs de primes. Voilà le postulat de départ.
Bon, Kev, première question, question habituelle, sempiternelle question. Ce film, tu nous le sors d'où ?
Écoute, il est très très frais dans ma tête puisque je l'ai découvert pour la première fois l'année dernière.
Oh.
Ouais, en fait, le film a bénéficié d'une ressortie en 4K le 30 mars 2022. Et c'est à cette occasion que je suis allé le voir au cinéma. Je ne me rappelle plus de quelle salle. Je sais qu'il y a plein de gens, plein de cinéphiles qu'on connaît qui sont très très forts pour se rappeler des salles dans lesquelles ils voient les films.
Mais nous, on n'est pas tellement bons pour ça.
Moi, pas du tout.
Mais toi, tu es très fort en anniversaire. Et ça, ça c'est important.
Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, je me rappelle avoir vu les extraits, la bande-annonce et surtout l'affiche, la nouvelle affiche du film.
Est-ce que c'est celle de l'édition du DVD que
exactement.
Tu m'as montré ?
Ouais,
elle est très belle.
Absolument, je la trouve magnifique.
Il y a un petit côté El Topo, tu sais, de Jodorowsky, tu vois, ce genre de.
Bien vu, ouais, j'y avais pas pensé. Je vous la partagerai sur les réseaux sociaux, mais en gros, pour vous la décrire en deux-deux, en fait, on peut voir donc Silencio sur son cheval, sur un paysage enneigé infini, et en fait, il y a une traînée de, sang derrière son.
Et en fait, ça ressemble au premier plan du film, concrètement.
Ouais, bah c'est clairement l'ouverture du film, ouais. Tout à fait. Donc voilà, donc il y avait un peu ça qui avait piqué ma curiosité. Et évidemment aussi, voir à l'affiche Jean-Louis Trintignant dans un western plus Klaus Kinski, j'avoue que c'était
un frôle impensable.
Bah, en vrai, ouais, clairement, moi, c'était assez impensable. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup intrigué. Et à l'époque, j'avais rien vu de Sergio Corbucci en tant que cinéaste. Et depuis, j'ai seulement vu un autre de ses films qui est aussi très connu, qui s'appelle Django.
Oui.
Voilà, qui sont pour le coup avec
son deuxième plus connu.
Pour le coup, c'est vraiment Le Grand Silence et Django sont ses deux principaux films. Enfin, en tout cas, ces films, on peut dire, de la postérité. Et voilà, et c'est comme ça que je l'ai découvert, donc au cinéma dans des très très bonnes conditions. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Mais toi, Nathan, je crois que tu l'as découvert pour cet épisode.
Alors, moi, je l'ai découvert pour cet épisode. Je l'ai regardé entre 23h et 2h du matin hier.
Les bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions, sur un rétroprojecteur, c'était très correct. J'étais sous mes draps. J'étais voilà, dans un confort maximal, hein, tout simplement. ambiance feutrée. Voilà.
Ah,
il manquait plus que des bougies, un petit chocolat chaud ou un jasmin.
Bah, tu parles, un whisky.
Ah ouais, bien sûr, un whisky tiède. Et des bruits d'étriers, comme ça je tapais mes étriers contre le mur pendant tout le film.
Ah mais bien sûr.
Mes voisins me détestent.
c'est vraiment une expérience de voir un film avec toi.
Tout à fait. Non, oui, je l'ai découvert pour la première fois hier. Moi j'avais déjà entendu parler et vu des extraits de Django. De Corbucci, c'est la seule chose que je connaissais de lui.
Ouais.
Mais sinon, bien sûr, comme tout le monde, après, moi, j'ai vu du cinéma spaghetto, c'est un peu.
Ouais.
Mais voilà, celui-ci, c'était une découverte.
Ouais. Je vais tout de suite enchaîner et je vais commencer inhabituellement en vous donnant tout de suite mon avis du film. Mais parce que je veux préciser quelque chose qui va être important pour la suite de l'épisode, c'est qu'en fait, dans Retech, on a l'habitude de ne pas spoiler les films dont on parle. Mais là, pour bien comprendre la production du film, sa réception, faut que j'aille un petit peu dans la révélation. Mais alors rassurez-vous, je vais pas trop aller loin dans les détails. C'est un exercice un peu délicat, mais je vais pas vous dire la fin. Mais il faut quand même que je vous dise un peu de quoi il en retourne dans ce film. Donc Le Grand Silence, à mon sens, c'est une grande tragédie contemporaine. Et donc pour moi, le fait d'armes est d'être un mémorable face-à-face entre Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant. Dans un environnement qui est assez inhabituel dans le western, qui est donc un paysage enneigé.
Tout à fait.
Et qui contrebalance un petit peu, enfin pas un petit peu, complètement d'ailleurs, avec la noirceur d'un récit qui est vraiment, on peut le dire, très nihiliste.
Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois, c'est une boucherie,
vraiment,
le bordel.
J'essaie vraiment pas de dire des détails sur la fin, mais c'est compliqué. En fait, c'est bien simple, mais je considère ce film un petit peu comme hors norme dans la production de l'époque et même du genre, tant je trouve ce film anti-héroïque et complètement désespéré. Pour ma part, je trouve, et même pour beaucoup de théoriciens en tout cas du cinéma, quand on pense désormais à Sergio Corbucci, Le Grand Silence, c'est vraiment le film de la postérité, celui avec Django qui marque incontestablement, et c'est celui qu'on cite le plus, moi je ne le savais pas avant de le voir, mais c'est celui qu'on cite le plus avec la trilogie du dollar.
En fait, moi, pour être tout à fait honnête, dans les western spaghetti, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées à la trappe pour de bonnes raisons.
Ouais, clairement.
Et en fait, à part les noms de Corbucci, surtout bien sûr de Sergio Leone,
ouais.
En fait, moi, j'en connaissais aucun autre. Je peux pas t'en citer d'autres.
Ouais. Mais alors, pour le coup, je vais y revenir. Mais c'est vrai qu'il y a trois Sergio qui sont connus dans le western spaghetti. Et donc, c'est Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima, dont je n'ai vu aucun de ses films, mais qui est assez réputé aussi pour être dans le western italien et qui avait fait deux films qui sont réputés. que je n'ai pas vu, qui s'appelle Colorado, et le dernier Face à Face. Voilà. Je reviens au grand silence parce que je veux d'abord m'attarder un petit peu sur la figure de Silencio, qui, à mon sens, fait partie un peu de celle des personnages mythiques. Ceux qui captivent tant ils semblent insaisissables. Pour vous le décrire en deux, Silencio, c'est un personnage donc muet qui a perdu l'usage de ses cordes vocales à la suite de l'assassinat de ses parents par des, ce qu'on devine être des chasseurs de primes. Et en fait, c'est un personnage qui est donc obsédé par la vengeance et qui en même temps se laisse séduire par l'appât du gain. En fait, on le voit arriver dans la ville de Snowtown.
Snow Hill,
voilà, c'est ça, je l'avais oublié, tu vois. Et en fait, parce que c'est une veuve dont le mari vient d'être assassiné par un chasseur de primes.
Qui a le deuil un peu court. La veuve aux mœurs légères.
Ouais, c'est vrai.
Trintignant, il était fringant à l'époque. Est-ce qu'on
peut parler de la beauté incandescente de Trintignant dans ce film? Moi, je trouve qu'il est remarquable.
C'est sûr.
Il dégage un truc assez fort. Je le trouve complètement magnétique. Donc voilà, donc en fait, il est attiré par cet appât du gain, donc par cette veuve qui en fait lui promet une somme s'il accepte de tuer donc Tigrero, donc Klaus Kinski. Ce qui est intéressant dans la méthode de Silencio, c'est qu'il dégaine toujours en second, ce qui lui permet en fait d'éviter en fait d'être accusé. En fait, ça lui permet d'avoir la légitime défense.
Exactement.
Ouais. Ouais. Et j'aime bien cet aspect-là de son personnage. En fait, c'est qu'il s'en sort parce qu'il est tellement, il arrive tellement bien à manier les armes qu'en fait, il s'arrange toujours pour tirer le second. Et je trouve que c'est un personnage qui dégage une puissance contenue, mais qui est assez forte. Et ce dès sa première apparition, dont tu as parlé avant, c'est-à-dire on le voit à dos de cheval descendre une vallée enneigée. Complètement emmitouflé, ce qui lui donne une carrure assez imposante.
Et surtout, ça c'est monolithique là-dedans avec leur manteau. Là. Ouais. Tu sais, c'est un peu Winterfell, quoi, tu vois.
Ouais, grave. C'est vrai que c'est... Non, mais totalement. Tu vois, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vraiment...
Les manteaux noirs avec la moumoute au-dessus.
Ouais, Winter is coming, quoi, tu vois.
C'est ça. Donc, il y a un gros col dragoon à la place de l'épée, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment... Moi, j'aime vraiment... Cette introduction, elle est vraiment très, très chouette. Et en plus, elle nous renvoie... aussi à la fin du film, puisque si tu te rappelles, dans cette introduction, on le voit à un moment chuter. Enfin voilà, bon bref. Le Grand Silence, en plus d'être un western de très, très bonne facture, hein, qui pour le coup est vraiment efficace à temps, je trouve qu'il offre des grilles de lecture assez intéressantes et sur lesquelles je rebondirai après en vous évoquant le personnage de Sergio Corbucci. Mais je trouve déjà par le fait qu'on a un personnage de banquier qui se croit au-dessus des lois, méprisant le shérif, même jusqu'à agresser sexuellement donc la veuve, donc qui est Pauline.
Oh, il est dans toutes les magouilles.
Ouais, il est vraiment dans le pire des trucs et tout. C'est assez intéressant un personnage comme ça, tout comme celui qui est à un moment un avocat chasseur de primes qu'on voit très brièvement au début du film. Et j'aime bien cet aspect-là parce qu'on sent déjà que Sergio Corbucci, il en a gros sur la patate. Tu vois, pour lui, les banquiers, c'est des pourris. Les avocats, donc ils sont censés représenter la loi, c'est des pourris aussi.
Les politicards. Pareil.
C'est des pourris aussi, tu vois. Il y a juste une personne qui semble un peu digne représentant de la loi, qui est donc joué par un shérif, qui est un personnage un peu pato, un peu intéressant, un peu bon vivant, mais très appréciable. Voilà. Mais en soi, Corbucci, tu sens qu'il a un profond mépris pour les institutions et les autorités. Tu vois, dans ce film, je trouve que, et quelque part, même plus que ça, je trouve que Tigrero et sa bande de chasseurs de primes, je trouve qu'ils incarnent un peu les forces d'un capitalisme un peu sans foi ni loi. Tu vois, je trouve qu'ils n'ont pas de scrupules. Il y a même ce côté un peu Tigrero, à un moment, tu le vois, tu sais, noter dans un calepin le nombre de ces assassinats, un peu comme un comptable.
Non, puis il y a un truc où à un moment, il laisse un mec dans la neige, tu sais, il a dit « Ah non, mais attendez, bougez pas, arrêtez-vous là, parce que j'ai laissé un mec dans la neige pour qu'il soit conservé. » Il vaut que 500 balles, mais bon, c'est toujours ça de prix pour les vieux jours, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est clair.
Il y a toute la thématique du peu de valeur de la vie humaine, etc., de la monétisation de tout ça.
Ouais, c'est clair. Ce film là-dessus, il est assez désespéré. Ouais,
ouais, c'est assez noir. Ouais.
Et voilà, et donc c'est vrai que dans ce film, donc les affrontements, tu vois, en plus de ça, ils sont assez secs, ils sont brutaux, ils sont froids, ce qui va vraiment bien avec le paysage. Mais je trouve qu'ils sont mis en scène avec une certaine maîtrise, parce qu'en soi, tous les affrontements, je trouve qu'on sent vraiment cette tension complètement, qui est vraiment contenu tout le long du film. Je trouve la première rencontre entre Trintignant et Kinski, elle est assez forte, tu vois, dans ce saloon en plus. Il se passe quelque chose et tout. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de rancœur, alors qu'en fait, finalement, ce sont deux personnages qui ne se connaissent pas.
Mais surtout qu'il y a toute une mise en... Enfin, les personnages sont vraiment, comment dire... Il y a vraiment une construction des personnages et... de manière à ce que leurs apparitions... Enfin, c'est des personnages qui sont rendus mythiques... par le film, quoi. Il y a une petite part un peu légendaire, comme tu retrouves souvent aussi dans la trilogie du dollar, etc., etc.
Ouais, c'est clair.
Ces personnages sont précédés par leur réputation.
C'est vrai que pour le coup, ils sont vraiment très bien caractérisés, ça on peut le dire. Et donc en fait, dans tout ça, dans tous ces personnages et tout, il y a vraiment l'inhumanité un peu d'un monde en perdition qui ressort. Et je trouve qu'en plus de ça, enfin voilà, le final en soi, c'est vraiment une séquence d'horreur comme rarement. Moi, j'en ai vu au cinéma, vois. Je trouve que c'est et ça va être aussi intéressant quand je vais vous parler de Corbucci, mais ça nous renvoie aussi aux pires heures un peu du fascisme. C'est vraiment, c'est un massacre, quoi, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Et je trouve que c'est, il faut le préciser, c'est vraiment pas un film qui récompense son spectateur, mais je trouve que par du coup, il a une certaine habileté et un peu par sa maestria, sa portée sociale et son jusqu'au boutisme des choses. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un film qui est vraiment remarquable et ça en fait vraiment pour le coup un monument en tout cas du western italien comme on l'entend, tu vois. Et alors là, je vous l'évoque tout de suite. On l'a peut-être entendu brièvement dans la bande-annonce du film, mais que dire de cette bande originale de Ennio Morricone, une fois de plus? Que je trouve vraiment formidable.
Moi, je le trouve très très bon dans les moments de chevauchée, les moments épiques et tout. Un petit peu moins bon dans l'émotion.
Ouais.
Peut-être un petit peu trop, mais ça, c'est aussi parce que le temps a fait son œuvre, tu vois. Mais il y a un côté peut-être un peu trop mielleux, un peu trop dégoulinant, tu vois, je trouve. Mais par contre, il y a des thèmes qui sont géniaux, tu vois. Enfin, bon, il est trop fort, hein, de toute façon. Mais dès que tu es sur des thèmes un petit peu épiques, vraiment, en fait, en quelques notes, ça te met déjà dans une ambiance. Tu es dans un western, tu es dans un, tu vois.
Ah, bah, je peux dire que l'ouverture du film, effectivement, avec sa musique, tu es là, waouh, mais ce morceau, il est déjà incroyable.
Ça peut être un film tourné par des Italiens en Italie, tu vois, etc. Bah, en fait, en quelques notes, il t'emmène dans le Grand Ouest, tu vois.
Ah, tu crois ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez remarquable. Du coup, on peut directement passer à toi. J'aimerais déjà un peu savoir, c'est vraiment assez inhabituel la manière dont je fonctionne aujourd'hui, mais j'ai envie de savoir, c'est quoi ton avis sur le film ? Qu'est-ce que tu as pensé du Grand Silence ?
Eh bien, écoute, il m'a laissé un peu dérouté.
Oh !
J'ai pas été conquis par le film. Je dois bien avouer. Après, je sais que moi, le western spaghetti, c'est pas mon style de western par excellence.
Mm-hmm.
Je préfère les westerns vraiment américains, les styles John Ford, les machins.
Tu peux y aller parce que de toute façon, je vais te couper au montage.
Ah, voilà, parfait.
De maintenant.
Non. En fait, je lui trouve un certain nombre de qualités. Je trouve que son casting est hyper original.
Ouais.
BO incroyable. Je trouve que le cadre, effectivement, et ce film entièrement blanc, ça m'a fait penser au, tu sais, Hateful Eight de Tarantino, ce genre de truc.
Les salopards, ouais.
Exactement. Et ces cadres un peu, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et après, il y a quelques petites choses qui m'ont moins plu. Peut-être le personnage de Trintignant, moi, m'a un petit peu laissé de marbre. J'ai pas forcément eu de l'empathie pour lui, ses enjeux, etc., etc. Et après, il y a le côté, tu sais, moi qui me dérange parfois avec les western spaghetti, qui est le côté très bout de ficelle, tu vois.
Ouais.
Tant qu'il y a zéro pognon.
Et
du coup, ça en fait le charme aussi, tu vois, je trouve.
Ouais.
À mort. Mais moi, c'est ce qui fait que c'est un peu moins mon style de cinéma, là où je pense que d'autres vont adorer, tu vois, justement ce côté-là. Mais moi, tu vois, quand tu rentres dans une ville, il y a 4 Pékins, tu vois. Enfin, il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, tu sais que c'est une économie différente et que c'est et que ça participe au charme de ces films-là, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais je sais que moi, ça m'a un petit peu sorti. Mais on en reparlera plus vers la fin, si tu veux, notamment pour rebondir peut-être sur des points que toi t'évoqueras, etc.
Ouais.
Donc il y a des côtés que j'ai bien aimés, d'autres un petit peu moins. Je dirais que j'ai pas été conquis spécialement par le film, même si je suis content de l'avoir vu, ne serait-ce que pour découvrir un peu autre chose que du Sergio Leone, et de revoir Kinski, dont je pense qu'on reparlera bientôt dans Ritech, dans d'autres films, qui est un acteur allemand que nous on adore, qui est un zinzin de l'espace, je pense que tu vas en parler dans le...
Ah ouais, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui.
Et Trintignant, moi, c'était très marrant. Je l'ai peu vu à l'écran. J'ai pas vu énormément de films avec Trintignant, donc c'était très marrant de le voir dans ce rôle improbable, tu vois.
Ouais. Et ma foi, très bien. Comment rebondir là-dessus ?
En nous parlant du film.
Absolument. Non, mais du coup, là, ce qui m'intéresse maintenant pour le coup, je voulais vraiment vous donner un peu des détails d'abord sur nos avis pour ensuite vraiment vous parler de la production du film, de sa réception, et aussi vous parler déjà un petit peu, en préambule, du western spaghetti. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de western spaghetti, et qu'il faudrait normalement appeler le western italien. Donc, ce que je vous disais avant, c'est qu'on pense le plus souvent donc, aux trois Sergio, donc Leon, Solima et donc Corbucci. Mais aucun de ces trois-là n'avait réalisé le premier western italien. En fait, c'est difficile de savoir c'est lequel le tout premier, mais il semblerait que ce soit le père de Sergio Leone qui a réalisé le tout premier western italien, et qui s'appelle son père donc Vincenzo Leone, et qui est connu sous le nom de scène Roberto Roberti. On va savoir.
Stylé.
et qui réalise le premier western italien muet en 1913 et qui s'intitule La Vampire Indienne.
Oh, wow.
Mélange de genre.
Incroyable.
Mais vraiment, ce qui lance cette vague de
western. C'est dingue.
C'est ma boule.
Le Godzilla palestinien.
Non, mais se dire que c'est le père de Sergio Leone, quoi. Enfin,
ah ouais, non, il n'y a rien qui va dans ces infos.
Mais en fait, le vrai premier film qui lance en tout cas la vague dans les années 60 du western italien, c'est en 1963 un film qui s'appelle Duel au Texas, qui est co-réalisé par Ricardo Blasco et Mario Caiano. Et en fait, à ce moment-là, tous les producteurs comprennent que il y a du pognon à se faire, les gars.
Yes, bah faut dire que c'était un peu l'âge d'or aussi.
Bah ouais. Et ce film-là, la BO était déjà composée par Ennio Morricone. Tu vois. Donc,
ah ouais.
Ouais. Donc il était déjà là au bon moment, tu vois. voilà. Et l'année suivante, en fait, la société Jolly Film produit un petit film méconnu qui s'appelle Pour une poignée de dollars de Sergio Leone.
Tiens, tiens, tiens.
Et en fait, à partir de là, bon, bah, là, c'est la machine à cash, quoi. Là, vraiment, pour le coup, ça a explosé instantanément. Et en gros, en 4 ou 5 ans, il va y avoir 500 westerns italiens, ce qui est monstrueux, tu
mais
vois.
Mais ça en dit beaucoup aussi sur la qualité de la production.
Et bien sûr,
et
c'est vraiment
pour rien s'il n'y a que quelques noms qui sont ressortis
c'est
derrière.
De l'usine, quoi.
Ça devait, je pense qu'il doit y avoir tellement des nanars incroyables se regarder.
Bah, bien sûr. Et c'est ce qui me permet en fait de revenir sur l'appellation Western Spaghetti, puisque les origines de cette appellation divergent. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que ce sont les Italiens qui se sont eux-mêmes donné ce nom, en mode, voilà, parce que c'est un peu leur marque de leur autodérision.
Comme si nous, on avait fait de la SF Baguette, par exemple.
C'est un peu ça. Okay. Ouais, c'est clair. Et en gros, ça voulait un peu dire, genre, bah ouais, mais en fait, il y en a tellement des westerns qu'en fait, ça déborde de tous les côtés. C'était un peu ça leur manière de dire, tu vois.
Un petit truc péjoratif.
D'un autre côté, on dit que ça pourrait être aussi une appellation qui vient des Américains, qui en fait méprisaient le western italien et que ce serait en mode pour dire, genre, bah ouais, en fait, vos plats de nouilles là, tu vois, enfin, vos films que vous faites vraiment à la chaîne et tout. Et c'est pour ça que Sergio Leone, lui, détestait qu'on appelle ça le western spaghetti. Et il faut savoir que pour une poignée de dollars, Sergio Leone, il n'a même pas pu avoir son nom sur l'affiche. On avait mis le nom de Bob Robertson parce qu'en fait, il fallait que ça sonne américain.
Il y a un truc un peu Roberto Roberti à nous.
Bien sûr, il faut que les Américains comprennent. Tu vois.
Bob Bobby.
ça c'est clair et simple.
Pas mal.
Donc voilà, et en fait, Sergio Leone, il était furax, comme on appelle ça, des Western Spaghetti. Il était furax aussi qu'il n'avait pas son nom sur l'affiche, quoi, tu vois. Mais il fallait que ça sonne américain pour que ça puisse, en tout cas, s'exporter.
Ouais, je vois.
Donc voilà, revenons à notre Sergio Corbucci. Quand, en gros, à cette période, lui, il est surtout réputé, donc au milieu des années 60, pour avoir réalisé des films populaires qui sont des péplums, des drames, des comédies musicales, enfin voilà. En gros, ce mec-là, c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de faiseur. Tu vois, c'est un peu un artisan, voilà, dès qu'il y a un projet qui tombe, il le prend, quoi, tu vois. Mais il faut savoir qu'il a été assistant réalisateur pour Sergio Leone aussi. Donc il arrive quand même à se faire la main sur des bons projets. Ouais. Et en 1964, il réalise son premier western, enfin il le co-réalise, qui s'appelle Massacre au Grand Canyon, avec James Mitchum, donc qui est le fils de Robert Mitchum.
Ouais, ah ouais, ok. Ouais.
Voilà, il enchaînera très vite avec un film qui est assez reconnu et qui a eu une petite popularité en Italie, qui s'appelle Le Justicier du Minnesota. Et il retrouvera ensuite, il fera de nouveau des comédies. Et après, en 1966, là, il nous réalise donc, le cultissime Django avec Franco Nero. Et qui a un énorme succès. Mais vraiment, c'est l'un des plus gros succès avec la trilogie du dollar pour le western italien. Tu l'as vu, toi, Django ?
J'ai vu plein d'extraits dans la bouillasse, du massacre,
ah
du
ouais.
tir.
Ah ouais, il y a du sang, c'est assez vénère. Ouais. Moi, je l'ai vu pour le coup, je l'ai vu après Le Grand Silence et c'est assez remarquable.
Et même l'environnement, c'est un environnement qui n'est pas tout à fait habituel non plus, encore une
Sableux, fois. Sableux, boueux, c'est vraiment. Ah ouais. C'est cradingue, quoi. C'est... Ouais. Mais
je le regarde en entier.
J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Ouais. Et du coup, en fait, ce film, donc, il y a toute cette violence et ce qui attire la curiosité des gens et en même temps la censure. Parce qu'en fait, il sera censuré au Royaume-Uni jusqu'en 1993, par exemple. Tu vois.
Ah ouais ?
Et en fait, Corbucci, là où il comprend un truc avec son film, c'est que la violence, ça fait vendre. tu vois.
Ah bah ça.
Il a bien compris ce petit truc-là, et en fait, il avait envie de renouer avec cette atmosphère désespérée, cette violence. C'est d'ailleurs ce qui a plu, pour le coup, à Quentin Tarantino. Hein. C'est aussi pour ça que lui, il nous réalise plus tard, tu vois, Django Unchained.
Bien sûr.
Les Huit Salopards est clairement inspiré du Grand Silence, pour le coup. Voilà, et Django, en fait, il faut le savoir que c'est considéré comme le premier volet d'une trilogie qui s'appelle la trilogie Fango et Sangue, donc sang et boue, et qui sera donc complété par le Grand Silence, et le troisième, qui s'appelle Le Spécialiste, avec Johnny Hallyday, et qui est sorti en 1969.
Ça me dit quelque chose.
C'est vrai ?
Ouais, je me demande si j'en ai... Est-ce que je l'ai vu, ça ?
Et apparemment, c'est pas mal.
Ok, il faudrait que je regarde ça, il faudrait que je me regarde un petit trailer après, est-ce que ça me dit vraiment quelque chose ? C'est pas dans celui-ci où il y a une petite chanson justement composée par Johnny Hallyday ?
Ah bah il y a moyen, ouais, sans doute. Je l'ai pas vu, mais okay. Ça m'a beaucoup intrigué en tout cas.
Ok, intéressant.
En fait, à cette période-là, tu vois, après Django, déjà qu'il avait fait déjà quelques westerns, Corbucci, il a plus trop envie d'en faire, tu vois. Il est fatigué, ça lui procure pas vraiment de plaisir en même temps. Tu vois, tu sens qu'il rentre dans un truc qui le met dans un état un peu particulier. Et en même temps, il peut pas s'empêcher de se dire, et je le cite vraiment pour le coup parce que je l'ai vu dans une interview, qu'il n'y a rien de plus beau au cinéma qu'un cavalier au soleil couchant et un ciel rouge. Sent le poète, hein.
Ouais.
Et avec des flingues et du sang.
Exactement.
En fait, à chaque fois qu'il termine un western, il dit j'en ferai plus. Et en fait, il en refait un directement derrière, tu vois.
Mais en fait, il peut pas s'empêcher d'avoir ce héros taiseux. Cette femme maltraitée, voilà, et ces fusillades avec les mecs qui se font éclater, quoi.
Ah bah ça clairement, ouais. Mais tu vois, à ce moment-là, en tout cas, là il a envie d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait auparavant. Là, il a envie de casser les codes, tu vois. Avec le Grand Silence, il a envie d'aller, il a envie d'être cruel et morbide, tu vois. Il a envie de faire quelque chose qui a jamais été vu, et tu vois, il a envie vraiment que ce soit loin des codes américains, justement, tu vois. Et en même temps, il y a quelque chose qui l'obsède depuis le début, c'est qu'en fait, il a envie de faire un western dans la neige. Il dit qu'il est fan de deux films qui se déroulent dans la neige, qui sont La Chevauchée des Bannis d'André de Tost, qui est sorti en 1959, et Les Cheyennes de John Ford, sorti en 1964, que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si toi tu l'as vu.
Je pense que les John Ford, je me les suis presque tous mangés. Mais...
Je sais que ton père, lui, il est assez fan des
westerns. Ouais, ça a dû dérouler. Je pense que celui-ci a été visionné à un moment ou à un autre.
Ça m'a donné envie de le voir, en tout cas. Ouais.
Je pense qu'il le faisait aussi pour le plaisir de voir des chevaux se gameler, parce qu'on voit tout le temps des chevaux se gameler dans ce film. En fait.
Ouais, c'est clair.
Parce qu'ils ont de la neige jusqu'à l'encolure.
Mais en fait, c'est aussi ça que j'aime bien dans ce film, c'est tout ce côté-là très maladroit de tout le monde.
En fait, tout le monde galère.
Tu vois, les shérifs et tout, la neige, c'est impraticable. C'est vraiment, tu sens que c'est éprouvant, mais qu'ils n'arrêtent pas de se vautrer, tu vois.
C'est une purge.
Ouais, c'est clair. Sergio Corbucci, c'est aussi un petit malin, il faut le dire. Parce qu'en fait, il avait envie de tourner dans la neige. Mais son producteur dira de lui qu'en fait, c'était aussi pour avoir l'opportunité de tourner dans les Dolomites, donc qui est dans le nord-est
dans le nord de l'Italie.
Dans le nord-est de l'Italie. Et c'était pour passer son temps libre à faire du ski.
Bien donc, vu, Corbucci.
Il est l'utile à l'agréable, tu vois. Corbucci, ça me fait trop marrer parce que quand tu le vois dans les bonus du film, c'est un mec qui kiffe la vie. Il a une bonhomie sur le tournage. Tu le vois dans le making-of, il est tout le temps avec un sourire. Il est tout le temps à faire des blagues, à se marrer avec tout le monde. C'est un mec vraiment... Tu sens que c'est chouette de l'avoir sur un tournage, tu vois. Et la plupart des techniciens qui sont interrogés, après c'est un making-of, hein, mais vraiment ils disent tous à quel point ils sont trop contents de bosser avec lui, que c'est un vrai bonheur, tout ça. Mais pour bien comprendre Corbucci et cet aspect-là de sa personne, il faut aussi remonter un peu dans son enfance. Et je fais vite fait un peu son historique et tout. Mais c'est quand même un mec qui est né sous le fascisme mussolinien. En fait, il est conscient, pour sa part, il le dit, d'avoir été un peu une victime du lavage de cerveau de la propagande italienne à l'époque, tout ça. En fait, il expliquera qu'il en est sorti très, très marqué et qu'en fait, c'est grâce à l'arrivée des Américains que ça lui a ouvert le monde, en fait, de la bande dessinée, du cinéma. Mmh. Et en fait, par la suite, il a pu s'intégrer un peu au milieu du théâtre, tout ça, un peu à tout ce milieu du showbiz, de l'art, en tout cas. Et c'est comme ça qu'il est rentré là-dedans. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir un peu une vision un peu pessimiste de l'humanité et un peu des institutions qui étaient censées un peu défendre les gens, en tout cas. Et c'est intéressant parce que du coup, je trouve que cet aspect-là, finalement, on peut le ressentir dans le film.
Je vois pas de quoi tu parles. Tout le monde est pourri jusqu'à l'os dans le film.
C'est clair. Il n'y a vraiment pas un personnage sauvage.
C'est clair. À part Silencio.
Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste un mec qui a quand même fait beaucoup de comédies. Tu sens que c'est un mec qui a envie de rire. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est un mec qui en a gros sur la patate. Donc, on revient à ce moment-là de la pré-production du film. C'est intéressant parce qu'à ce même moment, les producteurs du film lui permettent de rencontrer Jean-Louis Trintignant. Et en fait, Trintignant, faut le savoir, lui, qui est donc un acteur français, hein, pour le coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il a une carrière parallèle à son parcours en France, qui en France on le connaît, tu vois, à cette époque-là pour les films Et Dieu créa la femme de Roger Vadim et Un homme et une femme de Claude Lelouch, tu vois, mais il est déjà assez célèbre chez nous. Mais à ce moment-là, il avait déjà tourné une trentaine de films en Italie, qui était vraiment mais on se rend pas bien compte encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, l'Italie c'était vraiment l'usine, quoi, tu vois, de films, en fait, de cinéma d'exploitation. Et en fait, il est devenu un peu la coqueluche d'un cinéma italien parce qu'il jouait dans les comédies, tout ça. Et il est devenu très, très célèbre dans un film qui s'appelle Le Fanfaron de Dino Risi, qui était un peu une comédie culte dans son temps, en tout cas en Italie. Il enchaîne les projets et tout, jusqu'à ce que l'un se casse la gueule. Le film qui s'appelle La mort a pondu un œuf. Voilà.
Oh, wow.
Rien que le titre, déjà, tu sais pourquoi ça s'est cassé la gueule. Et en gros, Trintignant, il est dépité que le film se soit vautré. Et en fait, il dit à son producteur que t'inquiète pas, on va se refaire. Et ce qui marche en ce moment, c'est le western. Et bah vas-y, on fait un western, quoi, tu vois. En gros, le producteur lui permet de rencontrer Corbucci et tout. Et à ce même moment, Corbucci, qui est très pote avec Marcello Mastroianni, il évoque le projet de tourner un western avec lui, pour le coup. Et Mastroianni, lui, lui réplique en gros que lui, il parle pas très bien anglais, que ce sera compliqué, qu'en fait, il se sent pas trop de le faire et tout. Corbucci lui dit juste, bah non, mais t'inquiète pas, en fait, on va juste faire de ton personnage un muet. Tu vois, aussi simple que ça. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est la version de Corbucci. Et Jean-Louis Trintignant lui dira qu'en fait, en gros, il est venu sur le tournage et il a dit à Corbucci, moi, j'ai pas trop envie de parler. De toute façon, dans les westerns, les gens, ils parlent pour rien dire. C'est inintéressant, c'est des dialogues bidons. Je pense que ce serait bien que mon personnage soit muet. Corbucci, il a dit, moi, ça me va. L'histoire de Silencio, quoi. Tu
gros
vois.
Enjeu.
Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je trouve que Jean-Louis Trintignant, il interprète Silencio avec un magnétisme et une gravité que je trouve assez renversante pour ma part, en tout cas. Parce qu'à aucun moment, j'ai un doute sur la crédibilité de l'acteur à jouer ce rôle. À aucun moment, je me dis ça marche pas ou quoi, tu vois. Alors que pour moi, je l'avais vu avant, c'était un homme et une femme de Clouloux. Tu vois, c'est un mec qui danse sur la plage avec sa femme, tu vois. Ouais. Et en fait, et ça m'a interrogé, en tout cas, sur tous ces personnages mutiques du cinéma. Tu sais, on l'avait déjà évoqué, je pense à Matt Mikkelsen dans Valhalla Rising.
Bien sûr.
On peut évidemment penser à Ryan Gosling dans Drive. Et je pensais à un autre personnage que moi j'aime beaucoup qui est Holly Hunter dans La leçon de piano. Et je trouve que les personnages mutiques au cinéma, s'ils sont bien faits, ils sont quelque chose de vraiment captivant. Ouais, parce qu'ils sont très mystérieux et moi j'adore ces personnages. Et en l'occurrence ici, Jean-Luc Trintignant, moi ça fonctionne vraiment à 100%. En tout cas pour ma part, moi j'y crois complètement et...
C'est vrai qu'il a une certaine aura, le PPR, quand même. Hein,
ouais.
On va pas se mentir.
Je vais passer maintenant au personnage de Tigrero, qui est un peu pour moi la partie la plus savoureuse de la production du film. Donc, le rôle qui est donc donné à Klaus Kinski, donc, acteur allemand dont on ne présente plus, hein, mais qu'on peut juste dire qu'il a été rendu célèbre par les films avec Werner Herzog. Donc, on pense à Aguirre, à Fitzcarraldo, voilà, par exemple, ou Nosferatu. Il faut savoir que Klaus Kinski, un peu comme Trintignant, il a une carrière parallèle en Italie. Puisqu'il avait déjà joué dans Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone, il a un petit rôle dedans. Moi, je m'en rappelais plus, mais c'est vrai. Et on connaît un peu la réputation colérique de Klaus Kinski. Et c'est vrai que tous ceux qui ont travaillé avec lui le trouvent vraiment, ont rien à dire, c'est un excellent comédien, mais que humainement, il est imbuvable.
C'est un connard.
Ouais, c'est vraiment là-dessus, on va pas se mentir.
Fou.
Et pour le coup, je vais pas te surprendre, il a pas dérogé à la règle sur le plateau du grand silence.
Il a essayé de tuer quelqu'un ou pas?
C'est un festival d'anecdotes que je m'apprête à te raconter sur Klaus Kinski.
C'est parti.
En gros, Trintignant et Corbucci, ils diront qu'ils l'ont trouvé odieux avec littéralement toute l'équipe, qu'il était abject au point que vraiment toute l'équipe l'évitait pendant tout le tournage.
Bon, jusque-là, rien d'anormal.
Voilà. Corbucci raconte une anecdote assez savoureuse où il dit que Kinski, il a été jusqu'à provoquer le shérif qui jouait par Frank Wolf, en déclarant, je cite, « Je ne veux pas jouer avec un juif comme toi, je suis allemand et je déteste les juifs. » Ambiance.
Eh ben dis donc.
Au final, il s'est juste passé que Frank Wolf, il a essayé de l'étrangler sur le tournage. Et qu'en fait, ils ne se sont plus jamais parlé en dehors de leur scène.
Eh oui, ouais, on peut comprendre.
Klaus Kinski dira plus tard qu'il avait agi de la sorte pour aider Frank Wolf à rentrer dans son personnage.
Bien sûr, acteur studio.
Exactement, c'est une méthode.
C'est une démarche bienveillante avant tout, l'antisémitisme.
Pour l'anecdote, ils joueront ensemble un an après dans un autre western qui s'appelle Le Fossoyeur. Voilà.
Et ils deviendront meilleurs amis. Spoiler, pas du tout.
Aucune idée.
Il y a peu de chance.
Je crois pas trop, non. Mais en gros, Klaus Kinski, tu sens que tu fous un peu la merde et il le sait, tu vois. Donc, il sent que l'atmosphère est un petit peu tendue sur le plateau. Et un jour, il se décide que en Italie, donc, il se décide que pour faire plaisir à l'équipe, il va préparer un immense plat de pâtes.
Oh mon Dieu, des de merde sur le papier. Plat de pâtes préparé par un Allemand, il n'y a aucune chance que ça marche. Bah,
écoute, il a ramené ce plat genre à la cantine ou je sais pas trop quoi, mais en gros, toute l'équipe se serait tellement marrée, tellement c'était immangeable. Ce qui se serait passé, c'est que Claude Schicchi aurait juste boudé. Il serait juste parti. Quoi. Mais
oh my.
La légende dit même qu'il serait parti en écrasant sa cigarette dans le plat de pâtes, tu vois, pour dire.
C'est beau.
Vraiment un beau personnage, quoi, tu vois.
Tigrero.
Et j'en ai pas fini parce qu'en fait, Kinski, il écrira une autobiographie plus tard dans laquelle il se vantera d'avoir eu une liaison extra-conjugale avec l'actrice Vonetta Maggi, donc qui joue Pauline dans le film, donc la veuve. Alors que sa femme et sa fille Natasha Kinski étaient présentes sur le tournage. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment un super gars. Et là, après, c'est un témoignage de Werner Herzog que j'ai trouvé qui disait qu'en fait, cette autobiographie, c'était tout ce qu'il y avait de plus fictive. Que Kinski fait que raconter des conneries et tout. Et même par la suite, il y aura une interview de Vonetta Maggi qui dira qu'elle a toujours trouvé ce mec absolument abuvable. Ouais. Je reviens brièvement sur Frank Wolf, donc notre chef qui essaie d'étrangler Kinski, qui, je t'en ai parlé un petit peu avant, mais qui est un personnage extrêmement intéressant, un peu droit dans ses bottes, comme je disais, un peu bourru, mais un digne représentant de la loi. Et je trouve qu'avec Trintignant et Kinski, il crée une dynamique assez intéressante, un peu comme une dynamique un peu triangulaire, tu sais, un peu façon le bon, la beauté et le truand, tu vois. Et j'avais bien aimé cet aspect-là du film. Lui, pour le coup, il était jusque-là habitué un peu des rôles graves ou un peu des antagonistes. Et je trouve que son attitude un peu semi-comique, elle détonne un peu dans le film et elle fait un peu du bien. Elle apporte un peu de fraîcheur, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Dans la même année, il tourne dans un autre western culte qui s'appelle Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, tu vois, comme quoi.
Ah oui.
Et je reviens également très très brièvement sur Vonetta Maggi, donc qui est une actrice américaine qui était complètement inconnue au moment du tournage et dont il s'agissait officiellement du second film et qui en fait avait voulu tenter sa chance à Rome. Bien lui en a pris puisque en fait avec ce film, Sidney Poitier lui a donné sa chance et en fait elle est devenue une figure majeure après la Black Exploitation.
Okay.
Et elle a même tourné dans un film, dans un rôle principal dans le film La Sanction de Clint Eastwood. Voilà.
Ok. Petite carrière, quoi. Du coup.
Bah ouais, clairement. Et là, voilà, moi je l'ai bien aimé pour le coup dans ce film.
Ouais.
Voilà,
après, c'est vrai que c'est petit pas. Rôle, dans les western spaghetti, il n'y a pas grand chose à manger pour les femmes, hein, en règle générale.
Ça, on va pas se mentir là-dessus, ouais. C'est clair.
Le genre du western un peu veut ça déjà dans ces années-là. Mais alors, d'autant plus dans le western spaghetti, quoi.
Ouais,
la femme, elle est là pour être martyrisée.
Ah bah, elle perd son mari et du coup, après, enfin, bon, elle cherche à pas se manger, mais en faisant appel à un homme.
Bien sûr.
Bon, voilà. Enfin, c'est pas un spoil, mais du coup, il y a à un moment, il y a une scène de romance entre elle et Silencio. Je trouve assez délicate, assez subtile. Moi, j'ai trouvé ça. Voilà. Il y a un truc qui se passe entre les deux personnages. Moi pour le coup, j'y crois. J'étais un peu là, je me dis, je l'ai pas trouvé trop cette scène. Tu vois. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Petit côté fleur bleue. Non, moi non plus, je suis assez d'accord.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que je suis un peu fleur bleue. Je reviens à notre bon Sergio Corbucci qui, avec son équipe de scénaristes, donc son frère Bruno Corbucci, Vittoriano Petrilli et Mario Amendola, en fait, ils vont librement s'inspirer pour ce film d'un fait historique qui est donc la guerre du comté de Johnson qui s'est déroulée de 1889 à 1893 et qui était en gros un conflit où de riches éleveurs de bétail accusent des petits éleveurs de leur voler en gros leur bétail. Et en gros, à cette période-là, donc les riches vont embaucher des as de la gâchette, donc des chasseurs de primes, pour anéantir la concurrence. Et en gros, lorsque les petits éleveurs vont apprendre ça, ils vont former une troupe de 200 hommes, ce qui va créer un conflit assez...
assez improbable.
Improbable et surtout un massacre assez vénère, pour te dire que ça a duré 4 ans. Et c'est finalement la cavalerie des États-Unis qui aura été envoyée par le président Benjamin Harrison, qui viendra mettre un terme à ce conflit. En gros, cette histoire, elle est également la source d'inspiration d'un autre grand cinéaste, qui est Michael Cimino, qui est pour le film La Porte du Paradis,
oui,
que
sûr.
Moi, je n'ai pas vu.
Qui est incroyable, je te le conseille, ça, pour le coup.
Ouais.
Si tu aimes bien les westerns funestes, alors celui-ci va te plaire.
Ah bah, j'aimerais vraiment beaucoup le voir et tout. Et d'ailleurs, ce film-là, il est assez réputé pour avoir un peu tué la nouvelle vague.
Et la carrière de Cimino aussi.
Ouais, carrément.
Alors que c'est un film qui n'est pas dénué de qualité, loin de là.
Bon, en gros, voilà, hormis les petits dramas entre comédiens, le tournage se passe relativement bien. Donc, ça tourne, comme j'ai dit, dans les Dolomites. Ça reconstruit le village dans les studios Helios près de Rome. Ce village, en fait, c'est le même qui a été utilisé pour le film Django. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de petites économies.
Oui, non, mais en même temps, j'imagine que le village, il a dû tourner dans 40 films, s'il y en a eu 500.
C'est éco-prod.
Ouais, c'est pas mal.
Alors par contre, ce qui est pas écoprone, c'est que 3000 litres de mousse à raser ont été déversés pour donner cet aspect-là.
Bah dis donc, ça devait bien coller par terre.
Ah bah là, mon pote, ouais, là l'écoprone, pas trop. Ouais.
Pas top.
Petite info à savoir également, qui est un truc qu'on ne sait pas du tout aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, les films, ils n'étaient pas enregistrés avec un son direct. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir un film italien avec un acteur allemand.
Ça se voit, je trouve.
Bah ouais. Un acteur allemand, un acteur français, ouais. Frank Vogel, enfin une actrice américaine, tu vois vraiment, c'est le casting Benetton.
C'est le bordel, ouais.
Donc littéralement, personne parlait vraiment italien.
Ouais, d'ailleurs, c'est très étrange de voir le film en italien après.
Bah exactement. Moi, je me suis dit finalement, en fait, ce film, je l'ai pas vu en VF, mais je pense qu'on peut peut-être le voir aussi en VF, quoi, parce que.
Ouais, la VF est pas terrible. Je pense en italien, c'est mieux.
Ouais, sans doute, ouais.
La VF et il y en a même des pour certains personnages, c'est dur, quoi.
Ah, tu l'avais en VF, toi, du coup ?
J'ai vu, en fait, au début, je l'ai lancé, il était en VF. Et après, je me suis fait la réflexion que je suis reparti dans les versions et je l'ai remis en italien et je fais oui.
Ouais.
Au bout de 5 minutes, hein, tu vois. Et je fais oui, non, en italien.
Ça ira. Mais en gros, du coup, à cette époque-là, donc, tous les acteurs étaient constamment doublés en post-synchro, tu vois. Corbucci, lui, demande aux acteurs de jouer ce qu'il appelle en diction numérique. En gros, ça consiste aux acteurs à compter des nombres et à les réciter dans leur langue maternelle. Ce qui vraiment dénote, quoi, tu vois, dans le film.
Mais ça se voit.
Tu sens qu'il y a des trucs, parfois, ça colle pas trop. Pour Jean Étratinant, ça fonctionne puisqu'il ouvre jamais la bouche.
Exactement.
Mais Kinski...
ça se voit.
Ouais, y a un petit, tu le sens un peu. Même Frank Wolf, je crois, y a des moments, c'est assez bizarre. Mais en même temps, je trouve ça assez fascinant, cette méthode, tu vois, de vraiment un peu à l'arrache.
Je pense que ça va avec le petit style spaghetto,
ouais. Ouais, c'est ça. Je vais un peu conclure un peu cette présentation du film, tu vois, juste en disant que le grand silence, il sonne un petit peu le début de la fin pour le genre.
Ah ouais ?
Ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un peu un déclin, donc c'est à cette période-là, donc à la fin des années 60, au début des années 70. Sans doute face à un peu un public qui est un peu lassé, j'ai quand même parlé de 500 westerns, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, et un peu aussi une perte de crédibilité en Italie, parce qu'en fait, il commence à y avoir de nombreuses parodies à cette époque-là, notamment des films un peu des duos un peu burlesques avec genre Terence Hill et Bud Spencer. Et en fait, tu vois, ça perd un peu en crédibilité tout ça. Il y aura encore quelques films remarquables qui vont sortir, hein, je pense, du coup, au Campanieros de Corbucci, qui est assez réputé aussi pour le coup. Il y a été une fois la révolution de Léon.
Mais c'est vrai que c'est des archétypes tellement, tellement poussés. Et, je vais pas dire cliché parce que c'est un style, tu vois, c'est un genre.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le cadre de ce genre, il est tellement précis et poussif et que forcément, il y a un moment où ça pouvait que trouver sa limite et être un peu tourné en ridicule, tu vois.
Ouais.
Même en vérité, la trilogie du dollar aujourd'hui, difficile de la regarder sans aussi une pointe d'ironie, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, moi, j'avoue, je pense que j'ai encore toujours la nostalgie pour ces films. Je pense que je les revois aujourd'hui, je serais toujours un peu
fasciné. Bien sûr, mais on ne peut pas s'empêcher d'en rire un peu aussi, quoi.
Ouais. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que le grand silence, en gros, sonne un petit peu le début de la fin et c'est sans doute un peu dû à son échec. Je vais maintenant, ça me permet de rebondir sur un peu la réception du film. Alors, c'est intéressant, il faut vraiment que je vous précise bien les choses, mais en gros, le film, il fait à peu presque 600 000 entrées en France, 570 000 spectateurs. En Allemagne, il a également un succès assez relatif. Mais ça, il faut le mettre en gros sur le fait qu'on a Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski, donc, qui sont du coup réputés dans leur pays d'origine. Le film fait 1 million d'entrées en Italie. Mais en fait, tout ça, ces chiffres, ça nous paraît impressionnant. Mais en fait, finalement, ça ne l'est pas du tout à cette époque-là, parce que vraiment, les westerns font beaucoup plus. Et pour le coup, c'est vraiment très, très loin du carton attendu pour un film comme Le Grand Silence. Et surtout, en comparaison d'un autre film de Corbucci qui est sorti la même année, qui s'appelle Le Mercenaire. Voilà, j'ai pas réussi à trouver le budget du film.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se viande, quoi.
Ouais, il se vautre vraiment. Pour l'ensemble de la production italienne, le film n'est pas du tout rentré dans ses frais. Il n'a pas trouvé son public. Les théoriciens, les commentateurs, ils diront que c'est dû en partie à sa fin. Au fait de l'avoir sorti à Noël en Italie. Ça, ça l'a tué dans l'œuf.
Pas tout à fait un film de Noël, ouais.
Exactement. Et c'est un peu pour cette raison que les distributeurs anglo-saxons s'y sont pas risqués. Parce qu'en fait, le film, il a été censuré au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour l'anecdote, il sera présenté pour la toute première fois au Royaume-Uni en 2017.
Oh, wow.
Non, pardon, c'est aux États-Unis en 2017 et c'est en 1990 au Royaume-Uni, tu vois, pour te dire.
Ok, d'accord.
À l'époque, c'était le producteur Daryl F. Zanuck, qui lui est réputé pour avoir produit les films Le Jour le plus long, Les raisins de la colère, F, Cléopâtre, voilà. qui lui était en charge de la distribution du film et qui aurait appelé Corbucci en l'insultant et en lui disant « Mec, c'est quoi cette fin ?» En fait, ça va pas du tout.
Ouais. Mais j'avais entendu parler qu'il avait dû tourner une fin alternative ou je sais pas quoi pour le film.
Absolument.
Y a pas un truc comme ça ?
Exactement, c'est une très belle transition. Donc, il y a une fin alternative qui existe, mais toute l'équipe du film était d'accord pour qu'en gros, il fallait que le film se termine vraiment sur une fin...
Sombre.
Sombre, exactement. Donc, ils ont tourné une fin grotesque.
Ils vont s'aborder, quoi.
Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est du sabotage, ouais, clairement.
Et tu l'as vu, toi, la version alternative ?
Ouais, parce qu'elle est dans les bonus du Blu-ray que tu tiens devant toi.
Incroyable.
Et on la retrouve aussi sur YouTube, si ça vous intéresse.
Ouais, il faudrait que je regarde ça, parce que ça, mais, je pense que ça vaut son pesant.
Mais c'est... Je peux vous la raconter comme ça, mais vraiment, c'est juste... En fait, le shérif arrive comme un cheveu sur la soupe. Il arrive et descend tout le monde. Et on découvre que Jean-Louis Trintignant, il avait des protections sur ses mains et qu'en fait, en métal. Et donc, en fait, il était protégé. Et,
okay.
Et en fait, happy end, Jean-Louis Trintignant part avec sa go et le shérif, il rigole et c'est fini.
Pas mal. Pas mal, pas mal.
Et donc, ça allait pas du tout, en fait, avec juste les 5 minutes d'avant, tu vois.
Oui,
donc,
ils ont fait exprès. Ouais.
Donc, les producteurs ont dit, bah non, bah fuck, tant pis, on va garder la fin originalement prévue, mais ça fait chier, quoi. Mais en gros, donc Daryl Zanuck, lui, il est un peu saoulé par ça. Et comme il avait les droits du film, en fait, il commence à mettre en place la production d'un remake avec Clint Eastwood, qui finalement ne verra jamais le jour. Pour
c'est pas plus mal.
X raisons, ouais. Donc voilà.
Mais je sais que ce film, il a eu un certain succès. J'ai l'impression qu'il est devenu un peu mythique avec le temps. Il a eu un certain succès d'estime, non ?
Exactement. Il a été réhabilité par la suite et tout. Et en fait, c'est un film qui parle un peu de son époque aussi. Corbucci, à ce moment-là, lui, il a été très marqué par les assassinats. Alors pour le coup, il faut que je vous présente, mais Corbucci, c'est un mec vraiment d'extrême gauche. Enfin, c'est vraiment un communiste dans l'âme, tout ça. Et lui, il a été très marqué par les assassinats de Malcolm X et de Che Guevara, qui arrivent vraiment dans ces années-là. Et en fait, il a voulu vraiment montrer un peu cette perte de confiance, cette perte d'humanité dans ce film, en fait. Pour lui, vraiment, Le Grand Silence, c'est un peu une réponse à ça, à tous ces personnages un peu mythiques qui sont décédés à cette période-là. Et la fin un peu aussi d'une époque, tu vois. On sait que c'est les années 60, tout ça. On arrive dans la guerre du Vietnam et tout.
C'est la désillusion.
Ouais, grave. Effectivement, tu as raison, c'est un film qui a été réhabilité, même si à l'époque, pour le coup, les critiques ne sont pas très tendres avec le film. Déjà parce qu'elles méprisent le genre, il y a 500 westerns,
oui.
Un de plus, un de moins. Donc
c'est l'industrie. Quoi.
Soit elles ne vont même pas le voir au cinéma, enfin, elles ne vont même pas faire un article dessus, soit ça le regarde de manière polie et ça dit que c'est OK pour passer un dimanche soir à la maison. Quoi, tu vois.
Voilà. Mais en règle générale, oui, j'imagine qu'ils étaient saoulés de ce genre, surabreuvés.
Ouais, c'est ça. Donc le film, il passe à la trappe, quoi, tu vois. C'est vraiment... il arrive un peu au mauvais moment, quoi. Ce qui fait que tu vois vraiment, on n'arrive même plus à faire la différence avec les chefs, ou en tout cas, on leur donne pas leur chance, tu vois, pour le coup. Mais en soi, ouais, le film a été bien réhabilité par les cinéphiles, par les jeunes théoriciens du cinéma, par la critique, tout ça. Et en gros, en 2017, donc la Cinémathèque française, elle annonce avoir entamé un processus de restauration à partir des négatifs originaux pour en faire un remaster en 4K et tout. Et donc, ça aura pris 5 ans, mais pour que le film sera finalement distribué en salle par Studio Canal. Et donc, qui éditera donc ce Blu-ray que tu as devant toi et qui est vraiment un Blu-ray que je trouve vraiment passionnant. Et moi, j'avoue, j'ai vraiment un amour pour les belles éditions et surtout pour les bonus. Et celui-là...
Celle-ci, elle a l'air complète. Hein,
ah ouais.
La liste, elle sur la jaquette.
Bah, littéralement, il y a un disque juste pour les bonus. Donc, il y a, pour vous le dire en deux-deux, il y a une présentation par Jean-Baptiste Torré. Il y a un documentaire sur Sergio Corbucci. Il y a un documentaire sur Ennio Morricone. Il y a la fin alternative, tu vois, il y a plein de choses. C'est un régal pour tous ceux qui aiment les contenus bonus.
Qui veulent se plonger dans une époque, un genre.
Ouais, c'est clair. Ouais. Et tout ce que je vous ai dit sur Corbucci et tout, vraiment, je l'ai pour beaucoup appris dans cette édition, tu vois.
D'ailleurs, en vérité, moi, je pense qu'une des grandes qualités de ce film, moi, c'est des choses qui m'a le plus plu, c'est de replonger justement dans ce genre,
ah ouais.
Et cette époque et ces codes qui sont si particuliers, quoi.
Ouais, c'est
clair. On n'a jamais retrouvé ensuite de cette manière-là.
Ouais, c'est clair. Mais sinon, si vous voulez, donc Le Grand Silence, il est également disponible dans le bouquet Canal+. Mais en fait, on est d'accord que personne n'a le bouquet Canal+ aujourd'hui. Mais vous pouvez le retrouver en streaming en fait sur Apple TV et sur Amazon Prime, par exemple. Et d'ailleurs, il est en 4K sur ces plateformes. Donc voilà, comme tu l'as dit, donc le film a été réhabilité, mais aussi grâce à Quentin Tarantino qui s'est beaucoup attelé à son genre, lui aussi, de cinéma.
Cinéma, hein.
Il lui a rendu bien hommage en parlant de Django, en faisant Les Huit Salopards. Michael Haneke aussi est un très grand fan du film. Réalisateur de Amour avec Jean-Louis Trintignant, par exemple.
Tout à fait. Beaucoup de flingues, de violence aussi.
Ouais, le cinéma de Haneke aussi, très désespéré. Enfin,
ça, par contre, oui. Ceux qui ont pas beaucoup d'éperon, mais beaucoup de désespoir.
Funny Games, Amour, ouais, voilà. donc voilà. Et pour conclure, je dirais que Corbucci, en tout, lui, il aura réalisé 13 westerns. Tu vois, pour quelqu'un qui en avait marre, il en aurait quand même réalisé pas mal.
Il a fait le job.
Mais il a une énorme filmographie. En tout, il aura fait 63 films. Après Le Grand Silence, il fera très peu de western, je sais plus, mais en tout cas il fera surtout beaucoup de comédies et il fera que des produits de commande à la fin. Je pense que vraiment l'expérience du Grand Silence l'aura un peu cassé, tu vois, ouais, c'est clair. Et en tout cas il fera plus jamais aucun film après qui dépassera les frontières transalpines, tu vois, vraiment il y a plus aucun film vraiment qui arrivera chez nous.
C'est
dernier film en tout cas qui lui a permis d'avoir
d'avoir
une renommée internationale, ouais. Il retrouvera plus, même tu vois, en termes de qualité, ça retrouve plus la grâce et la flamme, quoi, tu vois. Voilà, donc je m'arrête ici hein, pour vous parler du Grand Silence, mais comment dire, on évoque beaucoup de films qu'on aime et qu'on recommande évidemment d'Henri Tech et tout, mais pour ma part, et je te laisserai toi après nous dire encore quelques mots dessus et tout, mais le Grand Silence pour moi il va vraiment au-delà de ça parce qu'il est vraiment tout frais dans ma tête et pourtant il est instantanément devenu culte, tu vois, à mes yeux, par tous ces choix en fait qu'il fait, que ce soit le scénario, le casting ou même son atmosphère de fin du monde. Moi je trouve que ce film il m'emporte, tu vois, et je trouve que toute cette ambiance, cette atmosphère, moi j'avoue qu'elle est assez inédite dans ce genre, même au cinéma en général. Savoir que ce film pour moi il a été un échec, ben, ça me donne envie de vous donner envie de le voir parce que je trouve que c'est un film qui le mérite parce qu'il a vraiment quelque chose, il a vraiment des qualités assez incroyables.
En fait, c'est un film qui est, comme tu le dis, qui est assez original par son ton, par sa narration, par son casting, mine de rien, et par son environnement. Enfin, c'est un western très atypique qui, pour moi, me sort même un peu des codes du western spaghetti classique, c'est-à-dire qui transcende un peu ce genre pour en faire encore autre chose.
Ouais.
Et à ce niveau-là, il est très original, effectivement.
Ouais. C'est vrai. Bon, bah merci mon Nathan.
Ben non, merci à toi. Encore une découverte. Je me suis replongé dans un genre auquel je n'avais pas touché depuis longtemps et ça fait vraiment plaisir.
Ah, bah c'est cool. Bah, c'est vrai que là, mais même pour le coup, même dans Retex, ça fait depuis le premier épisode dont on n'avait pas parlé
western. Exactement. Et là, on est sur un autre style de western. Vraiment, vraiment différent.
Ouais, c'est clair.
Après le western moderne, le western spaghetti, on revient aux racines du mal.
Le western italien, s'il te plaît. Tu sais très bien que Sergio Leone n'aime pas qu'on appelle ça
spaghetto.
Le western.
Le western arancino.
Ah, mais alors.
C'est comme le peplum croissant en France.
Alors, c'est clair. Mais alors, vraie anecdote pour le coup, j'ai découvert qu'au Japon, on appelle ça le western macaroni. Et c'est pas du tout une blague, c'est vraiment comme ça. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on a voulu vraiment.
Le disrespect.
Pour tous les plats des Italiens, tu sais.
C'est clair.
En Afrique du Sud, c'est le western lasagne, tu vois.
Western pizza.
Ça m'a vraiment étonné de voir
calzone.
Ça au Japon, là. Enfin, bon, bref.
Et ouais.
Curieux.
L'humiliation n'aura donc jamais de fin.
C'est ça. Mais bon, bah écoute, en tout cas, enfin alors, je suis très, je suis très surpris de savoir que ce film, en tout cas, t'a laissé dérouté. Mais en même temps, je suis content aussi qu'un film fasse un peu cet effet-là, tu vois.
Bien sûr. Et en plus de ça, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire
non,
que,
bien sûr.
Je veux dire, on aborde tellement de genres différents et de films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en vérité, tu sais que moi, de toute façon, même si un film me laisse un peu quoi, tu vois.
Ouais.
Juste le fait de se plonger dans un film qui est une proposition différente de celle auxquelles on est habitué, avec des codes différents, etc. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Là, on replonge dans une époque, on replonge dans plein de choses. Moi, c'est. Je signe.
Ah, yeah, tu fais le plaisir.
Donc, merci, Lucas.
Avec grand, grand plaisir. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné envie de le voir, ce film, de vous faire votre avis. Voilà, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, un petit rappel, mais en tout cas, on est sur Instagram et Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur tous les agrégateurs de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google, Amazon Music, tant d'autres. Maintenant, vous le savez, la petite ritournelle. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles. En vrai, on dit comme ça, c'est un peu relou, mais ça nous aide vraiment un peu de tout ça. Et dans tous les cas aussi, on est preneur de vos petits retours. Ça
Absolument,
nous fait toujours plaisir.
C'est ce qu'on préfère.
Exact. Voilà. Est-ce que, Nathan, tu as encore quelque chose à dire pour conclure?
J'ai hâte de voir sur quel petit thème des New Morricone tu vas nous laisser, puisque là, tu n'as que l'embarras du choix.
Ah ouais, vraiment. Mais ça, c'est une petite merveille. J'espère que du coup, ça va laisser une belle note pour vous donner envie de le voir.
Absolument. Et merci à tous les auditeurs.
Et voilà. Et bien, c'était un peu notre épisode de Noël et de fin d'année. On va se retrouver en début d'année. On va revenir avec un épisode. On va revenir sur nos films de 2023, tout simplement.
On fera un petit top. Je pense à la mi-janvier, quelque chose comme ça, quand je reviendrai sur le territoire français.
Exactement, puisque là, tu nous parles, tu vas faire des petites vacances.
Exactement.
Et tu vas être bien.
Tout à fait, au soleil. ça va être très, très bien.
Moi, je vais rester. Moi, 5, j'aime bien Paris. C'est bien.
Pas besoin de cette dose d'asphalte, de pluie.
Moi, je veux rester vraiment dans l'ambiance du grand silence.
C'est devenu ton lifestyle.
Exactement. Bon, mais voilà. Mais en tout cas, merci à vous, les éditeurs. Merci à toi, Nathan. Et bonnes vacances, Nathan. Et bonne fête de fin d'année à tous nos éditeurs. Des gros bisous.
Ciao, ciao.
Bye bye. Thank you.